Interview.
13e rencontre de l'écologie au quotidien, c'est-à-dire du 23 janvier au 2 février et au-delà du 22 janvier au 7 février. Ces 13e rencontres sont le fruit de l'association Écologie au quotidien. Est-il utile de vous présenter cette association ? Eh ben, on a Claude Verret dans les studios, alors profitons-en, on va faire d'une pierre deux coups. Bonjour Claude.
Bonjour, bonjour la radio, bonjour à vos auditeurs.
On parlait donc d'écologie au quotidien. Quelles sont les nouvelles pour cette association qui commence à voir les quelques stigmates de la sagesse, puisqu'elle n'est pas toute neuve cette association, Claude ?
Elle n'est pas toute neuve puisque ce sont les 13e rencontres et ça fait une quinzaine d'années qu'elle officie sur Die et sur l'ensemble de la vallée. Mais je ne sais pas si on peut parler qu'elle s'agit parce que chaque année, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau projet, c'est de nouvelles thématiques, ce sont de nouveaux invités. Et donc, chaque fois, on apprend et on espère toujours apprendre des choses pendant ces rencontres.
On va donner quelques chiffres quand même pour que celles et ceux qui nous écoutent se rendent bien compte du challenge chaque année que ça représente de monter les rencontres de l'écologie au quotidien. Quelques chiffres en termes de fréquentation, par exemple. Est-ce que tu as une idée, Claude, du nombre
oui,
de personnes?
Oui, on a une idée puisque on vend, bien sûr, on fait des entrées. Et donc, l'année passée, on a eu 12 000 entrées. Mais il faut le dire, c'était sur 18 jours. Donc, quand on répartit, ça fait 1000 ou, je ne sais pas, 2000 personnes par jour. Donc, c'est tout à fait honnête pour un territoire. Il ne faut pas oublier que la ville de Die, c'est 4500 habitants à peu près. Et c'est un challenge d'avoir un événement de cette ampleur sur un territoire qui est relativement éloigné quand même par rapport aux grandes voies de communication ou aux grands centres urbains. Et puis, en plein hiver aussi, où des fois, le climat, la météo nous fait des petites surprises, donc, mais on persiste et dans ce lieu et dans cette saison.
Donc en termes de fréquentation et de territoire, on peut dire que les objectifs sont remplis. En termes d'énergie, de bénévoles et éventuellement de salariés s'il y a.
Oui, alors les rencontres de l'écologie ont un mode de fonctionnement qui est très particulier et on est très fiers. D'abord, c'est une association qui monte son projet avec les habitants. C'est pas une association qui, dans son coin, concocte tous les thématiques qui vont être développées en 2015. Je crois que la dernière réunion, avant-hier, c'était la 18e réunion territoriale avec des habitantes et des habitants afin de planter le décor, si je puis dire, et de voir quelles sont les thématiques, quels sont les sujets, quels sont les invités qui pourront faire richesse sur ce territoire. Et donc, c'est un projet qu'on peut appeler participatif dans le sens où il est construit par les habitants. Après, l'association, elle régule, elle fait des choix qui peuvent être des choix financiers, qui peuvent être des choix éthiques, pour que ces choix soient en accord avec nos fondamentaux, qui sont la laïcité, qui sont de la parité. Mais finalement, l'association est un peu la facilitatrice de l'accouchement de ce projet territorial. Et cette année, plus peut-être que les autres années, on le verra aussi à l'œuvre dans l'événement, parce que pendant ces 20 jours, il y a beaucoup de choses qui sont participatives. Il y aura beaucoup d'ateliers, il y aura beaucoup de tables rondes, il y aura beaucoup de travail avec les personnes présentes. Il y aura moins de conférenciers, il y en aura peut-être à peu près un par jour, mais on sera beaucoup plus dans malaxer les problématiques locales pour en faire ressortir des projets de territoire, des projets citoyens, des projets qui verront le jour en 2015, 2016, 2017.
Tu parlais d'éditions passées qui frôlaient parfois les 3 semaines. Si le compte est bon, on est à 2 semaines à peine.
Oui. Alors, on a plusieurs rendez-vous au cours de l'année. Les autres années, on avait les rencontres qui duraient 21 jours et on avait des choses qui étaient un peu plus légères en cours d'année. Cette année, on a les 15 jours sur 10, plus quelques événements sur le reste de la vallée de la Drôme, voire sur Valence. Mais en définitive, on aura des temps extrêmement forts en mai, en juin, en octobre. Donc on essaye aussi d'avoir plusieurs rendez-vous annuels. Puis il y a des événements que l'on co-construit avec d'autres structures, par exemple avec l'association Biovallée sur des rendez-vous. On construit aussi avec la FRAPNA, on construit aussi avec la LPO. Et donc, il y a certains rendez-vous qui sont plus ciblés sur la nature, par exemple, sur les jardins, par exemple, sur la fête des jardins, avec les structures des jardins partagés de toute la vallée de la Drôme. Et donc, à ces moments-là, on aborde des sujets qui sont plus pointus et qui sont des belles co-constructions avec d'autres structures. Puis ça nous permet de sortir du Diois aussi.
On peut trouver toutes ces infos où, Claude ?
Alors, on peut trouver d'abord les informations sur notre site écologieauquotidien.fr. Et puis, le programme même, vous pouvez le trouver à peu près dans tous les lieux publics, les cinémas, les médiathèques. Vous pouvez le trouver aussi dans les lieux qui accueillent le public, comme les communautés de communes, les mairies, le conseil général, les chambres d'agriculture, enfin tous les organismes publics. Vous trouvez le programme des rencontres de l'écologie.
Ça a été difficile d'accoucher un nouveau thème ?
Eh bien, ça n'a pas été difficile du tout, parce que l'année passée, en conclusion des rencontres, c'était le 2 février, je crois, il est sorti tout seul, comme un bourgeon. Il a éclaté comme un bourgeon au printemps. Tout le monde s'est dit, il faut, parce que 21 jours non-stop, l'année passée, on avait 300 invités, 150 rendez-vous. Et on a dit, il faut qu'on ralentisse un peu la cadence, parce que c'est un peu trop. Il n'y a pas beaucoup, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de festivals qui durent 21 jours. Donc, on a dit, on va ralentir un petit peu. Et puis, en piochant cette idée de ralentir, qui était une réflexion collective, mais aussi une réflexion individuelle, on s'est aperçu que finalement, la thématique était partagée assez par d'innombrables. On avait des revues qui parlaient de ralentir, on avait des films qui sortaient, qui s'appelaient L'urgence de ralentir. On avait plein d'articles de presse. Alors, peut-être qu'on n'y avait pas attaché de l'importance avant, mais in fine, c'était en harmonie avec tout ce qu'on lisait, tout ce qu'on découvrait. Ralentir n'est pas un objectif en soi. Alors, on ne veut pas une société végétale. Mais c'était... Et si, pour les grandes transformations qui s'annoncent, pour les grandes mutations environnementales et énergétiques, écologiques, si on prenait le temps, comme si on abordait un virage avec un véhicule, si on ralentissait pour prendre ce virage dans des bonnes conditions. Et donc, on est un peu dans ce temps-là de ralentir avant des grandes mutations sociétales qu'on imagine et sur lesquelles on pourra peut-être intervenir là.
Une sobriété, on va dire, qui vous permettra quand même d'avoir l'impact escompté.
Une sobriété qui, je crois, fait sens aujourd'hui. Alors, quand on parle sobriété, on peut déjà voir l'autre calque de cette sobriété. Est-ce qu'une société d'abondance donne satisfaction à nous tous et au commun des mortels? Déjà, je répondrai facilement par la négative. J'ai l'impression que l'acquisition de biens matériels illimité, et comme ça a été mesuré depuis la guerre, à peu près d'avoir le plus gros chariot à la sortie d'un supermarché, n'a pas satisfait les besoins fondamentaux de l'homme. Si on prend l'autre fil de la lorgnette, dans les ressources qui s'annoncent sur la planète en restriction, je pense que cette façon de consommer et de prédation au niveau de la planète ne permet pas ce type de développement d'un bonheur, d'une joie de vivre, d'un bien-être. Donc, c'était la vision négative. La vision optimiste, c'est que sur nos territoires, je dirais qu'on est un peu habitué à la précarité. Alors, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est vrai qu'on a développé beaucoup de systèmes de solidarité, des selles, des accorderies, des échanges, des lieux de gratuité, et puis tout un réseau de solidarité qui ont dépassé largement les dames bienfaitrices du siècle dernier, où se co-construit avec beaucoup d'autres des lieux où on peut trouver un logement, trouver un véhicule, partager des choses. Et c'est vrai qu'on est habitué finalement à vivre un peu en dessous du seuil qui est imaginé pour une société riche, une société d'abondance quand même, il faut le dire. La France est encore une société d'abondance. Et donc, je dirais qu'on était préparé dans le territoire, on était préparé dans le Diois plus particulièrement, on était préparé en montagne, où les conditions sont plus difficiles qu'ailleurs, à déjà être dans cette obligation de sobriété. Alors, cette sobriété, nous, on la voudrait heureuse, on la voudrait pas traumatisante. Et en échange de cette sobriété, on peut développer des quantités de choses qui sont liées à l'humain, qui permettent de faire richesse, richesse ensemble. On peut être riche, à défaut d'être riche financièrement, on peut être riche des échanges avec nos voisins, on peut être riche du monde associatif, on peut être riche d'apprendre le piano ou le russe, on peut être riche de faire des balades en montagne, on peut être riche de s'occuper de ses enfants, on peut être riche de multitudes de choses qui font que l'homme est comblé dans son bien-vivre. Et donc, c'est cela qu'on essaye de développer, afin que chacun, dans cette sobriété, puisse ressentir un vrai bonheur et une vraie qualité.
On vient d'aborder discrètement les deux poumons de ces 13e rencontres, qui seront l'économie circulaire et puis la pédagogie, qui sont un peu les deux leviers de ces rencontres de l'écologie au quotidien. Toujours en compagnie de Claude Verret, membre de l'association Écologie au quotidien, qui nous fait le plaisir de revenir avec un 13e programme, celui des rencontres de l'écologie, qui ont pour objectif de sensibiliser les habitants sur l'impact de nos modes de vie et de nos gestes quotidiens. Avant la pause musicale, Claude, on parlait d'économie, économie circulaire, développement durable, voilà, vivre avec modération, ressortir un petit peu de ce conditionnement qu'on nous a un peu imposé depuis les années 50-60.
Oui, c'est vrai qu'on peut, sans abuser des mots, on peut parler d'une sorte de totalitarisme économique. Qui décharne nos territoires, hein. Beaucoup d'entreprises et d'emplois sont partis dans d'autres, d'abord ça a été le long de la vallée du Rhône, puis après ça a été dans d'autres pays, et puis petit à petit aussi cette économie, elle a fait plus que décharner nos territoires, elle a décharné carrément la vitalité des hommes et des femmes, puisqu'aujourd'hui 80% des transactions financières et donc de l'argent ne transitent plus par le travail des hommes et ne recouvrent plus des réalités de production réelle. Donc c'est vrai que la réflexion aussi à travers ces rencontres, c'est de dire mais est-ce que l'économie est la loi inéluctable de pourquoi l'homme est sur Terre, ou est-ce qu'il devrait simplement être au service des humains? Et quand on part de cette réflexion, on se dit et qu'est-ce que c'est l'économie sur notre territoire? On a des richesses incroyables sur ce territoire, on a d'abord des hommes et des femmes qui innovent, qui ont l'intelligence de vouloir y rester parce qu'elles sont amoureuses de ce territoire. Et puis, on a aussi tout un tas de choses qui sont prégnante au niveau économique. Je pense bien sûr aux plantes aromatiques et médicinales, par exemple. Je pense à la forêt, je pense au tourisme. Et donc, on se dit, mais si on veut vivre ici, tout ça, c'est peut-être demain un capital formidable. Pourquoi un capital formidable? Parce que jusqu'à maintenant, les arrière-pays, comme le Diwa, étaient un peu les reliquats, les renégats de l'économie. C'était des territoires en déshérence dans lesquels plus personne ne croyait. Et puis il s'avère que dans les transformations qui s'annoncent, dans les mutations sociétales qui s'annoncent, ces arrière-pays n'ont pas été détruits. Ces arrière-pays n'ont pas été mis à sac au niveau écologique. Ces arrière-pays ont protégé, un peu malgré eux ou à l'insu de leur plein gré, comme on dirait, ils ont sauvegardé toute cette capacité à être accueillant, à être beau, à satisfaire ces cultures dont je parlais tout à l'heure, qui peuvent être la forêt, les plantes aromatiques ou une agriculture douce et durable. Donc finalement, on a le capital pour faire que demain on puisse relocaliser l'économie.
Alors tout au long du déroulé de l'événement de ces 13e rencontres, des débats, des conférences, des expos, des ateliers en veux-tu en voilà, des projections pour découvrir ce que c'est que l'écologie pour ceux et celles qui auraient envie de découvrir. On va visiter tes coups de cœur, Claude, si tu veux bien, en termes d'événements, puisque tu as contribué largement à la programmation avec toute l'équipe d'écologie au quotidien qu'on salue au passage. Quels sont tes coups de cœur ?
Alors mes coups de cœur sur le nombre d'événements, je vais être très bref. Il y a une dynamique européenne dans ces nouvelles rencontres. Ça fait plusieurs années qu'avec BioValley, nous allions dans d'autres territoires pour nous imprégner du Vorarlberg en Autriche, de Fribourg en Allemagne, du Cilento en Italie, qui ont des démarches un peu similaires à la BioValley. Et qui œuvrent en matière de développement durable, de relocalisation de l'économie, de recyclage de leurs ressources, d'accueil du public, de qualité à tous les niveaux, au niveau de l'énergie, de l'alimentation, de la petite agriculture familiale. Et donc, ces échanges ont permis aujourd'hui d'imprégner les rencontres de l'écologie qui vont inviter plusieurs territoires. Ça démarre cette année, mais ce sera un gros événement pour 2016, de mettre en lien et en visibilité les 7 ou 8 biovallées européennes.
Biodistrict,
on appelle en Italie, ça s'appelle des biodistricts, et en France, c'est biovallées. À d'autres endroits, ce sont des éco-territoires, mais la démarche est à peu près similaire, avec l'originalité de chacun, avec les grandes différences, hein, le Cilento est en bord de mer, mais ce sont des territoires qui ont fait le choix d'une vision du transformatrice en fonction de la limitation des ressources, de prendre son avenir en main, de la démocratie prégnante, participative comme on dit, mais ou voire directe, et de vraiment marier toutes ces visions qu'on essaye d'avoir pour que demain ces territoires, ils fassent bon vivre. Ça, c'est un des aspects pour nous qui renouvelle un peu notre imaginaire. Après, il y a la partie éducative que tu évoquais tout à l'heure. C'est vrai que je ferai pas de raccourci, mais il y a une partie des enfants qui se sentent mal à l'école. Il y a une partie des enfants qui sont un peu relégués à l'école. Et puis, il y a une, comment le dire pour être soft, l'école ne favorise pas aussi grandement qu'on le désirait et que le désiraient les enfants la créativité, la joie, la capacité d'apprendre. Et donc, en attendant que cette grande révolution de la joie soit introduite dans l'éducation nationale, ce que je crois, il y a beaucoup d'écoles qu'on l'on appelle alternatives, parallèles, des méthodes qu'on appelle Montessori ou d'autres, même ou libertaires, qui mettent l'enfant, comme on mettrait l'homme au cœur de l'économie, qui mettent l'enfant au cœur de la pédagogie. Et au lieu de faire des programmes préfabriqués ailleurs, on part de l'expérience des enfants pour les faire réfléchir, pour les faire travailler, pour les faire alimenter un journal, une réflexion, un respect des autres. Et je pense qu'on est en train de redécouvrir des méthodes, je pense à Freinet bien sûr, des méthodes qui ont fait leur preuve à certains moments. On est en train de redécouvrir que finalement, l'école a glissé à un certain moment sur des efficacités qui sont peut-être pas réelles et efficientes. En tout cas, il y a des problèmes avec l'éducation et on a un gros moment d'éducation, particulièrement avec André Stern, qui est quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école et qui est un artiste, qui est un poète, qui est un conférencier et qui apporte son immense joie de vivre au quotidien. Et je pense que ce sera un excellent moment.
Ça se présente sous la forme d'une conférence. Il va y avoir des questions.
Alors, sur Olivier Stern, c'est une conférence le soir, là, le mercredi 28 janvier. Par contre, il est là le lendemain. Il y aura des ateliers pratiques avec les écoles du coin, avec les enseignants et tout ça. Alors, ce qu'on ne voit pas peut-être dans les rencontres, mais qui est aussi qu'on a essayé d'incarner ce qu'on dit. C'est-à-dire, on parle de ralentir et vous ne verrez pas cette année des conférenciers qui arrivent au TGV à 8h, qui interviennent à 8h30, qui repartent au TGV à 22h. Les conférenciers, on leur a demandé de ralentir, de venir découvrir le Diwa et la Drôme la veille, de rester avec nous. Et on leur a demandé de décliner ce qu'ils allaient nous dire le soir, le lendemain, dans des ateliers, afin de tomber un peu amoureux. On aimerait bien qu'ils tombent amoureux du territoire. Et ça fait partie de notre projet.
Tu nous parles tourisme.
Oui, on aborde difficilement le tourisme. Pourquoi ? Parce que le tourisme a souvent été considéré comme des mouvements de masse assez destructeurs en général, hein. On peut penser à notre côte méditerranéenne. Et puis dans une réflexion plus politique, on a toujours pensé que le tourisme pouvait être un temps pour se ressourcer, pour offrir ses capacités de travail au capitalisme. Et donc on était plutôt dubitatif sur le tourisme. Et puis depuis 7-8 ans, il y a un nouveau tourisme qui se construit. C'est un tourisme qui fait découvrir le territoire et qui fait aimer le territoire. C'est un tourisme culturel, qui fait découvrir le patrimoine naturel et le patrimoine historique. La logique, c'est de faire aimer ce territoire et d'enrichir le visiteur. Il y aura un temps très très fort avec aussi l'ONF. Le chemin des Huguenots qui est dans cette démarche culturelle. Et donc je pense qu'on aura une très belle journée, oui.
Du tourisme qui fait sens.
Doucement, tout doucement, s'écoule mes rêves. Ruissellant mon sang, ma sève, mon âme, mon enfer. Libère-moi, apprends-moi le fil de l'exil. Entends-moi et prends-moi dans tes bras. Couvre-moi de tes dentelles. Montre-moi ton paru long avant toi.
Nous écoutions un extrait du tout dernier album d'Esquelina, album sorti en octobre, Esquelina, qui vous interprétait doucement, plutôt en harmonie avec la thématique qui nous importe ce jour avec Claude Verret, puisque nous parlons des 13e rencontres de l'écologie au quotidien, et que le thème central, c'est, vous l'aurez deviné, ralentir vers une sobriété heureuse.
On va l'aborder avec Olivier de Schutter, qui est responsable à l'ONU de l'alimentation et qui est enseignant à Louvain-la-Neuve, à l'université de Louvain-la-Neuve. Et donc, on va aborder le sujet comment aujourd'hui l'alimentation peut être un des leviers de relocalisation de l'économie. Nous, on le sait sur le territoire où il s'avère qu'on a essayé de conjuguer une agriculture locale, une consommation locale, une citoyenneté. Donc on est arrivé à un système où l'économie fait sens. Et le propre d'avoir invité Olivier de Schutter, il va nous parler un peu comment sur la planète, tant dans le Diwa que à Tchériba, au Burkina Faso, les agriculteurs vont être amenés à revisiter leur système de production. Je pense à Tchériba parce qu'il y a une intervention d'un agriculteur du Burkina. Et où les OGM sont distribués gratuitement afin d'éradiquer la petite paysannerie et les cultures vivrières. Donc, revisiter complètement notre agriculture afin de voir comment, grâce à la forêt, grâce à la protection de l'eau, grâce à la protection de la biodiversité, particulièrement des semences, quand je pense à Monsanto, on va pouvoir relocaliser, redonner du sens, redonner aux paysans la fierté, recultiver du savoir-faire et recréer des solidarités, des formations autour de l'agriculture vivrière. Et donc, je pense qu'il va nous apporter toute une vision d'une nouvelle agriculture qui peut se développer.
Et puis, pour nourrir le débat, donc, l'invitation lancée à Bruno Parmentier.
Alors oui, Bruno Parmentier est un ingénieur agronome qui a écrit une dizaine de bouquins sur l'agriculture et qui est un de nos invités. Alors, c'est un sujet qui va amener la controverse, puisque même s'il est un grand partisan de l'agriculture biologique, il pense que dans la biologie, on peut amener à l'amélioration des plantes par la génétique, mais pas la génétique telle qu'on les agriculteurs l'ont fait depuis 8000 ans, c'est-à-dire la génétique qui faisait se marier des plantes ensemble. Ils pensent qu'on va devoir pousser un peu les gènes pour que les plantes soient adaptées à la sécheresse ici, au froid ailleurs, à des endroits où c'est caillouteux, etc. Et il va être en controverse avec le réseau OGM de Rhône-Alpes.
On arrive un peu au terme, Claude, de notre petit entretien. Alors, si tu veux mettre une cerise sur le gâteau, c'est le moment.
La cerise sur le gâteau, c'est qu'on s'est emparé du problème du réchauffement climatique. Il y aura une soirée sur le changement climatique, sur le dérèglement climatique, avec Madame Jade Lingard de Mediapart. Et donc, on aura un bon moment de débat là-dessus. On espère que de ce miel vont sortir des choses qui vont permettre à la société civile de faire remonter. On va d'abord le faire remonter à Grenoble, puisqu'on est parti, on participe à un Alternativa à Grenoble. C'est un mouvement de la société civile pour faire émerger et donner une visibilité aux alternatives qui est né au Pays Basque il y a un an. Et donc, on va essayer que que la société civile se sente pas désappropriée par nos élus et par nos gouvernants de ce problème du dérèglement climatique. Je conclurai en disant que on est un peu dans le même scénario que nos amis de Charlie, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous dépassent. Aujourd'hui, hier, il y avait des grands rassemblements autour des chefs d'État et des grands de ce monde. Cette histoire de Charlie nous a tous impactés sur les territoires, nous a tous attristés, nous a tous donné une envie de nous battre pour la liberté d'expression, pour la liberté de penser, pour la liberté en général, pour la fraternité. C'est pareil, sur les territoires, il va falloir créer du débat, il va falloir créer des lieux où l'on puisse tisser du lien. Après les temps d'émotion et les temps de rencontres nationales, il faut que dans chaque village, dans chaque quartier, dans chaque association, ces thèmes soient ressentis, ces thèmes soient débattus et que de ça germent de nouvelles idées, de nouvelles propositions et qu'on puisse grandir ensemble en humanité.
Merci beaucoup Claude de ta visite, de nous avoir donné envie. Rapprochez-vous des offices du tourisme ou autres lieux pour trouver la plaquette et composez-vous un petit agenda du mois de janvier et février qui saura certainement vous enrichir. Merci encore Claude.
Merci beaucoup à la radio, merci à vos auditeurs.
Okay, the bird. L'interview du jour. L'interview du jour.